J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time. On est très heureux de vous retrouver pour débriefer l'actu basket, même si aujourd'hui on va plutôt parler avenir de notre basket français. Notre trio majeur cette semaine, l'homme pour qui les États-Unis ont décidé de rendre le 4 juillet férié, Stephen Brun.
Salut Arnaud, salut tout le monde.
Je précise, c'est ton anniversaire.
Tout à fait, comme Tom Cruise le 4 juillet.
Ah, de grands hommes, effectivement. À ma droite, l'homme qui a mis le pivot titulaire des Chicago Bulls dans sa poche à Sydney 2000, c'est Fred Weiss.
Bonjour, bonjour.
C'est vrai, on n'invente rien. Luc Longley,
non, c'est assez vrai.
Demi-finale.
Oui, c'est assez vrai.
Voilà, contre
nos... est-ce qu'on peut dire qu'il a mangé Longley ?
Oh, oui.
Il est déjà chaud.
Accordé avec la faute. Le panier. Et enfin, pour compléter notre table aujourd'hui, la cinquième personnalité basket la plus célèbre de Clermont-Ferrand, derrière Laetitia Guapo, Isabelle Fijalkowski, David Mélody et Xavier de Secret Story, c'est Geoffrey Charpille.
Salut Arnaud, salut à toutes et à tous. Effectivement, ça me fait très plaisir. On avait oublié Xavier et Tatiana, mais c'est vrai qu'ils ont joué...
David Delerue, joueur LNB, évidemment.
Et il avait un bon shoot mis du sens, ce qui n'était pas dégueulasse, au-delà de la carrière...
J'aurais mis David Mélody un peu avant Geoffrey Charpille, quand même.
Il est devant David Mélody.
Ah, oui.
Voilà. Il est derrière ces quatre personnalités. Voilà.
Geoffrey Lauvergne, il est pas né à Clermont.
Non, je crois pas. Je crois que son papa est un véritable Clermontois, mais lui, je crois qu'il
a. Comment le mec se défend pour être vraiment cinquième.
Il est dans le sac majeur du basket Clermontois.
T'es quand même derrière Stéphane Lauvergne, quand même.
Oui, totalement.
Messieurs, aujourd'hui, on va s'intéresser aux prospects français, ces pépites ou futures pépites. Évidemment, Victor Wembanyama en tête de gondole. Il vient de fêter ses premières capes en équipe de France et il ne déçoit jamais. Il fait tourner les têtes de la planète entière. On va surtout s'intéresser à son futur en équipe de France, car c'est là où on a le plus de visibilité, parce qu'on ne sait pas où il jouera l'an prochain, en NBA, mais où, on ne sait pas. Et puis, globalement, quels sont nos meilleurs jeunes joueurs français à suivre ces prochaines années ? Notre vivier nous permet est-il d'être rassuré quand les retraites de Dokolo et Batum arriveront ? La partie historique, quel joueur français qui n'a jamais joué en NBA aurait pu briller ? On va plutôt s'intéresser à des joueurs qui ont de l'expérience.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas mon nom, je peux te le dire.
Ah, tu t'es pas choisi ?
Non, pas du tout.
Et puis enfin le quiz, aujourd'hui 3 sur 5, ça va, c'est pas trop dur.
3 sur 5 ?
Ouais.
On est sur quoi ? Sur du basket français ?
Oui, basket français, prospect un petit peu, on est dans le thème de notre émission.
Il y a des charades ?
Il y a une charade, effectivement.
Et le mec est chaud, il voulait juste une charade.
C'est normal, il faut la charade.
C'est la charade du quiz.
C'est la tradition. Allez, basket time spécial prospect français, c'est parti.
On attend qu'il soit un des leaders de cette équipe, il n'y a pas de raison. Ce qu'il montre de façon hebdomadaire en championnat, j'espère qu'il va être capable d'avoir le même type d'impact, même dans un match international.
Ça me fatigue. On a eu un hyper phénomène Mbappé, on veut la même chose, il y a ce garçon.
So a late riser is Victor Wembanyama throws it down in transition.
Je suis concentré à fond sur tout ce que j'ai à faire.
Mais elle est encore longue la route, hein. À 18 ans, t'as que 18 ans, elle est encore longue la route.
Je pense qu'il a les armes pour y parvenir, il faut qu'il soit émotionnellement le plus près du texte possible, voilà. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il n'apporte pas de belles choses à cette équipe de France.
Et les belles choses, elles sont là. 20 points pour sa première sélection en Lituanie pour Victor Wembanyama en 23 minutes. 19 points lors du match lundi dernier contre Pau, contre la Bosnie. Deux sélections et déjà des envies d'or olympique avec Victor Wembanyama. C'est vrai, Geoffrey, l'intérieur français a déjà frappé fort pour ses premières sélections, certes dans une fenêtre internationale sans les joueurs NBA ou d'Euroleague.
Ouais, c'est vrai, tu l'as dit Arnaud, Victor Wembanyama, il a fait ses grands débuts avec l'équipe de France A déjà contre la Lituanie à 150 km de la capitale lituanienne, une victoire 90 à 65. Eh oui, 150
km de la capitale lituanienne.
C'est important, on est là pour élever le débat. Une victoire 90-65 et une impression un petit peu de voir un adulte jouer contre des enfants. 20 points à 6 sur 13 au tir, 9 rebonds en 24 minutes. Alors, malgré des prises à deux, parfois un traitement atypique des Lituaniens sur certaines attaques, il a vraiment dominé la rencontre. Et puis, il y a eu ce match tant attendu à Pau face à la Bosnie-Herzégovine à la maison. Victor Wembanyama, il a inscrit les 7 premiers points du match alors que les Bleus n'avaient pas encore marqué de panier après 2 minutes de jeu. Notamment un tir à 6m75 et un drive que j'ai trouvé entre férocité et finesse. C'était un mélange des deux assez atypique. Plus de 6000 spectateurs présents. Les Bleus ont obtenu leur sésame pour leur prochain mondial et pour son deuxième match en bleu. Mais le premier en France, donc Victor Wembanyama a terminé la partie avec 19 points, meilleur marqueur de l'équipe de France, dont un tir à 3 points sur une jambe. Un move qui commence à bien maîtriser. Il l'avait déjà réussi avec Boulogne-Levallois cette saison. Moins impressionnant que face à la Lituanie, voilà, à 150 km de la capitale lituanienne, je le rappelle, Fred, mais toujours terriblement efficace, comme l'a reconnu Vincent Collet en conférence de presse. Je le cite, il a fait un match moyen, mais comme c'est un joueur exceptionnel, même quand il est moyen, il reste bon.
Et avant de quitter l'arène paloise, la pépite du basket français a eu l'honneur de récupérer le tambour du COP avant de lancer le clapping final avec les supporters, preuve que cet amour est réciproque.
Merci Geoffrey. Stephen, convaincu oui. par cette première de Victor Wembanyama?
Oui, convaincu. Alors, moi j'ai préféré la première en Lituanie que celle d'hier parce que c'était sa première avec une cape, avec le maillot de l'équipe de France senior, qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de lui, que moi j'ai compris très tôt que c'était lui qui allait être la pierre angulaire de cette équipe rajeunie sur ces fenêtres-là, et puis il a assumé, il a été très bon. J'ai bien aimé comment il a laissé le jeu venir à lui, qu'il n'a pas forcé d'entrée de jeu. Il a attendu que les défenses soit un petit peu plus laxiste sur lui pour scorer. J'aime bien quand un garçon qui fait 2-20 prend 9 rebonds. J'aime un peu moins quand il prend 4 rebonds comme hier contre la Bosnie. Mais voilà, après, il faut remettre aussi en perspective le niveau de ses fenêtres, parce que Lituanie-Bosnie, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit aussi fort que beaucoup d'équipes du championnat de France. Et quand on voit ce que Victor fait...
Parce que Pro B, hein.
Quand on voit ce que Victor fait en Betclic Elite avec Boulogne-Levallois, je ne suis pas vraiment surpris de voir ces performances-là. Je pense qu'il a même quelques regrets sur le match d'hier, chez nos confrères de Bein, il disait qu'il voulait en mettre 40. Je pense qu'il avait...
Il avait rêvé
d'en mettre 40. Donc je pense qu'il aurait voulu performer un petit peu plus au scoring, mais je ne suis pas surpris. Maintenant, j'attends de le voir sur des matchs de très haut niveau. Ça veut dire quoi?
Des
vrais matchs FIBA, des matchs de très haut niveau. Ça veut dire en championnat, j'attends de voir la double confrontation contre l'ASVEL et Monaco, et puis j'attends de voir des matchs de FIBA où les sélections en face seront un petit peu plus costauds.
Des premières en bleu réussies, Fred, peut-être plus la première en Lituanie à 150 km de la capitale, ou même pour Vincent Collet, il a été plus juste finalement en Lituanie que contre Pau ce lundi.
Oui, mais en même temps, on oublie assez rapidement que le garçon n'a que 18 ans, que finalement, même s'il fait un peu le malin en disant « non, moi, tranquille, la pression, elle passe sur moi », c'était son premier match avec l'équipe de France A en France, devant le public français, donc il avait peut-être un peu plus la pression aussi, donc il a peut-être commis des erreurs de jugement dans son jeu, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois qu'on le met en face d'un défi, il le relève facilement, parce que on se rappelle quand même qu'ils sont allés jouer à Vegas, et tout le monde se disait oh, « bon, ça, c'est un match compliqué quand même », il a massacré tout le monde, finalement, il joue en équipe de France, il est là, et c'est lui le leader de cette équipe rajeunie, comme le disait Stephen, et sur son premier match, il fait un très bon match quand même aussi. Moi, je suis quand même impressionné par sa maturité et sa capacité à relever ses défis. Et finalement, je ne suis même pas sûr que ce soit des défis pour lui, c'est des étapes dans sa progression. Et c'est quand même très impressionnant pour un garçon, encore une fois, de 18 ans.
C'est vrai qu'il passe jamais à travers.
Il ne déçoit jamais.
C'est incroyable. Les attentes. Alors Vincent Collet est peut-être un peu déçu de sa prestation hier.
Oui, mais parce
hier,
qu'il en attendait toujours beaucoup. Plus. Ben, c'est normal.
Peut-être que Vincent a pas kiffé sa petite passe dans le dos, ses ballons perdus sur la fin de match où il y a un petit peu de,
il y a un petit peu de relâchement.
Mais c'est vrai, ce qui est fort, c'est qu'il passe rarement à travers. Pour l'instant, quasiment jamais. Que ce soit en championnat ou.
Dès qu'il y a une étape à franchir, il l'a franchi.
Il est là, il est fort. Et c'est ça plus fort pour un gamin de 18 ans qui a une maturité. Alors. J'ai entendu Lolo Sierra dans la prod. Lolo Sierra, il tape pas sur Victor Wembanyama. Il y a plein de gens qui me disent ils détruisent Wembanyama. Il détruit pas du tout Victor Wembanyama. Après Lolo, il est d'ancienne génération. Il a du mal à comprendre qu'aujourd'hui le basket c'est quelque chose de bien plus individualiste qu'à son époque où il y avait c'était les uns pour les autres. Voilà, le basket aujourd'hui il a évolué.
Oui, sauf qu'à l'époque c'était les uns pour les autres. Sauf que la draft t'es tout seul quand même. Et donc à l'instant T, Victor Wembanyama Benzema, il se représente lui. Et donc, c'est normal qu'il y ait une hype sur lui.
Mais il y a un énorme projet individuel autour de Victor Wembanyama. Dans ses choix de partir de l'ASVEL, de venir à Boulogne, tout est auto-centré autour de lui.
Orienté
sur sa progression, sur ses entraînements, sur sa faculté à être prêt pour la NBA. Mais aujourd'hui, tu regardes en NBA, tu te lèves tous les matins, il y a une stat, il nous invente des stats et des stats et des stats pour parler d'une performance d'un mec. Le basket est le sport le plus individualiste qui existe en tant que sport co, parce que tu vis à travers les stats, t'es jugé à travers les stats. Alors parfois ça peut faire grincer des dents, même moi parfois ça m'agace parce que on n'a pas été éduqué avec ce basket là égocentré sur l'individu. Parfois il y a des joueurs dont on ne parle jamais mais qui sont primordiales dans des collectifs, mais parce qu'ils mettent pas 25 points, parce qu'ils mettent pas 8 tirs à 3 points, on en parle beaucoup moins.
Un Terry Tarpey par exemple.
Exactement, donc c'est pour ça que je peux comprendre l'agacement de Lolo. Je peux comprendre l'agacement de Lolo Sierra sur les médias qui en font tout un pataquès, mais parce que c'est un phénomène. Il faut aussi se rendre compte que c'est un phénomène. Et si on n'en parle pas, on va pas en parler quand il aura 22 ans et qu'il sera à 23 points de moyenne en NBA. Donc on est obligé de s'intéresser à un garçon qui est précoce.
Surtout profitons de lui tant qu'il est encore là. On a besoin de lui pour continuer à avancer, pour montrer un peu le basket français, etc. Donc évidemment qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui s'intéressent à Wembanyama qui vont s'intéresser au basket français. Mais si on capte cette infime partie, c'est déjà du bénéf.
T'as raison. Arrêtons de jalouser, il faut surfer sur la vague Wembanyama pour le championnat de France.
Pour les gens sont heureux, viennent le voir, exactement, les salles se remplissent.
Exactement, et peut-être que l'année prochaine les gens viendront plus parce qu'il n'est plus là, mais c'est pas grave. Pendant une saison, on a un gamin qui est sur les parquets de France et de Navarre, il faut y aller le voir.
Mon petit doigt me dit qu'en janvier 2024, le match NBA à Paris, si... Il y a bien match NBA à Paris, mais je crois qu'on est sur un engagement de plusieurs années. Il y aura Victor Wembanyama.
Je sais pas. Là,
il va falloir laisser un petit billet, hein, quand même, parce que les places, elles ne sont pas données. Hein, pour le...
J'ai l'impression que monsieur a essayé de se connecter. Il y a pas de place.
On a essayé, on a vu les temps. Les tarifs, on est vite revenu sur le
terrain. Revenons sur l'équipe de France, parce que là, on est au moins sûr que ça va être son club à vie pour Victor Wembanyama. Il a montré, Geoffrey, une envie de jouer toutes les compétitions avec les Bleus, à l'image d'un certain Luka Doncic avec la Slovénie, par exemple.
Oui, totalement. Déjà, il le dit, les Jeux Olympiques, c'est son grand rêve. Il y a le Mondial 2023 qui va arriver. Mais ça va être un taulier dans les années futures. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille lui donner tout de suite les clés du camion. Parce que Victor Wembanyama, on est en train d'en parler depuis le début du podcast. On en parle depuis longtemps. Et cette facilité qu'il a, cette réussite totale dans tout ce qu'il entreprend, pour moi, parfois, elle fait un petit peu... Elle se met en opposition avec une certaine nonchalance. Steve a parlé tout à l'heure d'une passe dans le dos qui l'envoie dans les tribunes contre la Bosnie-Herzégovine. Il y a un moment, il va louper un lay-up tout seul, il s'arrête en contre-attaque à 6,75, il prend un tir alors qu'il y a des extra passes à faire. J'ai l'impression parfois qu'il est trop simple en fait dans sa façon de faire.
Ouais, mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il est bon justement ? Justement parce qu'il joue au basket et c'est un vrai gosse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il apprécie chaque moment du basket. Et alors oui, d'un côté on peut dire oui il est nonchalant etc, sauf que de l'autre on peut se dire aussi ça lui permet d'être complètement décontracté, de jouer son jeu et de montrer des trucs qu'on n'avait jamais vu.
À 18 ans il a le droit de faire quelques erreurs, de tenter des choses, c'est ça aussi qui lui différencie des autres.
Et c'est ce qu'on reproche souvent en français justement, de ne pas avoir tenté des choses comme un Frank Ntilikina qui quand il était en France il ne tentait pas suffisamment, et en NBA il le paye cash.
Et Stephen, est-ce qu'on doit jouer autour de lui en équipe de France, articuler notre jeu,
la configuration
Gobert, Embiid, Yabusele, Nico Batum.
Je suis pas sûr qu'il faille donner le leadership à Victor Wembanyama sur le terrain quand tu auras Rudy Gobert, quand tu auras Evan Fournier, quand tu auras éventuellement Joel Embiid. Moi je me rappelle d'un garçon à l'Eurobasket 2017, Luka Doncic, qui jouait déjà au Real Madrid, qui était déjà meneur titulaire. On lui a donné des responsabilités, mais malgré tout, c'était Goran Dragic le patron. Il a pris le contrôle de la Slovénie après.
Il a terminé MVP d'ailleurs.
Goran Dragic a terminé MVP, oui. C'est pour ça qu'il y a, en 2023, et il y a quelque chose que je veux mettre en perspective aussi, si en juin, Victor Wembanyama est numéro 1 de la draft, est-ce qu'on a la garantie qu'il soit à la Coupe du Monde 2023?
C'était mon point aussi.
Attention,
il doit travailler son corps.
Une franchise NBA qui vient de prendre Wembanyama, qui a tiré le jackpot, est-ce qu'il va le laisser à la disposition de l'équipe de France pendant 2 mois et demi? Il y a des interrogations là-dessus.
Mais est-ce qu'une franchise pourrait s'opposer à ce que si Wembanyama dit...
Les franchises ne s'opposent jamais, mais les franchises te conseillent. Mmh. Et en général, c'est un conseil.
Oui, mais là, on ne parle pas, par exemple, de Théo Malédon, à qui le Thunder avait conseillé de rester, et il l'avait fait, et il avait probablement manqué les Jeux Olympiques.
Tu sais qu'un conseil avec un pistolet sur la tempe, c'est un conseil.
Oui, mais là, est-ce que Wembanyama, alors on dit souvent, au-dessus de l'institution, par la telle hype, la telle attente, si déjà la franchise se froisse avec Victor Wembanyama, alors qu'il n'a même pas joué une minute en NBA parce qu'il a envie de jouer.
Je rappelle que Paolo Banchero n'a pas joué avec l'Italie cet été.
Il n'a pas les mêmes ambitions.
Il est numéro 1 de la draft, Paolo Banchero.
Oui, mais l'Italie ne pouvait pas être championne d'Europe ou... Avec Banchero, bon, Mais là, il y a l'objectif d'être champion du monde en 2023.
Ouais, ouais, avec quelle équipe aussi? Est-ce qu'on a la garantie que Rudy Gobert et Evan Fournier seront là aussi en 2023 et qu'ils ne vont pas prendre un été off avant les Jeux Olympiques 2024? Mais en configuration XXL, ça me paraît peut-être prématuré de donner tous les ballons à Victor Wembanyama. Je te dis
mais
pas
ce serait pas bon pour lui non plus d'ailleurs. Hein.
Je crois pas que ce soit bon pour lui.
Lui faire un cadeau que lui donner tous les ballons, hein, évidemment. Quand tu as des mecs autour, appuie-toi dessus, continue à grandir, continue à progresser. Évidemment qu'il fera des coups d'éclat, c'est une évidence. Encore une fois, si sa franchise le laisse venir, parce que moi je te rejoins pas. Oui, il a le pouvoir de dire à sa franchise je viens pas. Sauf qu'imagine, il se blesse. Le mec connaît pas les circonstances de la NBA, il connaît pas le physique qu'il faut avoir. Les mecs ils vont lui dire hey, mec, on a misé sur toi, on va te donner un salaire énorme. Il va falloir que tu sois en forme. On va te faire travailler, on va te faire progresser. Tu sais très bien que l'été, tu joues des matchs, mais tu ne progresses pas autant que ce que tu pourrais faire avec ton club. Hein,
après, ce qui est sûr, c'est que Victor Wembanyama change le visage de cette équipe de France quand il est sur le terrain, alors qu'il n'est pas tous les ballons, parce qu'il faut des ballons pour Evan, il faut des ballons pour Rudy Gobert, pour Nando Docolo, pour Nicolas Batum.
Parce que Laurent Ferreira l'a dit, ça se joue à ça, le basket.
Exactement, mais Victor Wembanyama sur un terrain de basket, il ne peut pas être anodin quand il est avec l'équipe de France. Il doit avoir des responsabilités, il doit avoir des systèmes pour lui, sauf que là, il faut que ça soit dilué, parce qu'il y a des autres, il y a des mecs qui ont déjà un passif en équipe de France, qui ont gagné des médailles en équipe de France, qui vont t'accueillir bras ouverts dans cette équipe de France, qui vont te donner le relais, parce que ce sera ton équipe peut-être même en 2024 et après 2024.
Qui vont t'enlever de la pression.
Exactement, mais de là à te dire, Victor, c'est ton équipe, je crois que c'est un petit peu prématuré.
Dans les statuts, évidemment. Mais alors, comment l'utiliser en équipe de France? Vous le voulez vraiment big man? Est-ce que vous le voulez
moi, j'ai des rêves, j'ai beaucoup de rêves en ce moment. Je dors très très bien et quand je dors, je rêve. Et moi, j'imagine une raquette composée de Rudy Gobert, de Joel Embiid et en poste 3, un Wembanyama. Et on se taperait une petite zone 2-3, magnifique, où personne prendrait un rebond, personne n'oserait rentrer. Après, encore une fois, c'est un rêve et ça paraît compliqué, mais concrètement, plus sérieusement, en poste 4, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment écarter les jeux, qui peut faire de la place si on a joué à l'Embiid, justement pour jouer à l'intérieur, qui peut jouer dos au panier aussi. Donc moi, en poste 4, je pense que tu peux l'utiliser.
Après, ça peut très bien une utilisation à la Nikola Jokic, où il prend le rebond, il remonte la balle, il annonce le système, il fait la première passe, il peut jouer 5, il peut jouer 4, il peut jouer au large. Et là, on parle beaucoup d'attaque, et Fred a raison de dire que en Lituanie, à 150 km de la capitale, il y a un paquet de joueurs lituaniens qui sont rentrés dans la raquette et qui ont vu de l'ombre et qui sont repartis. La dissuasion,
il finit pas avec énormément de contre.
Non.
Sauf que le nombre de
shoots ne
shoot pas. Les mecs ne shootent pas. Les mecs ne shootent pas. Il y a un paquet de mecs qui sont arrivés. Ils ont dit ils ont vu le loup, pas Jérémy, mais Victor Wembanyama, et ils sont repartis. La dissuasion, rien que par son envergure, sa présence dans la raquette, les mecs ne veulent pas tirer. Alors, ce sera peut-être moins le cas sur des grandes nations avec des grands joueurs. Mais les Lituaniens, ils ont pris peur quand ils entendent la raquette. Ils ne pouvaient pas jouer. Et ça aussi, c'est un aspect du jeu de Victor Wembanyama qui est prépondérant. Tu longues tiges comme ça de la raquette. Après, à voir quand il va jouer des postes 5 ou des postes 4 qui sont capables d'aller au large, parce que les adversaires, ils vont faire quoi? Ils vont essayer justement d'enlever.
L'écarter.
Le problème, c'est que si tu as Rudy Gobert, Wembanyama ou Joel Embiid ou Wembanyama, tu vas en écarter un, mais il y en a un deuxième qui sera là. Donc,
la deuxième lame.
Donc elle fait peur, cette équipe de France. Je pense qu'elle fait peur, et même aux Américains, parce que quand tu vois que Joel Embiid a mis 59, 11, 8 et 7
avec les Français et des Français. Hein.
Exactement. Si jamais Joël Embiid fait ses papiers pour jouer en FIBA avec l'équipe de France, ça va donner des sueurs froides à beaucoup d'équipes.
C'est-à-dire que si on a effectivement cette configuration Geoffrey, Embiid, Gobert, Wembanyama pour 2024, hein, je vois pas après, nous sommes les favoris pour les Jeux Olympiques.
Oui. Oui, clairement, mais après...
Tu t'avances un poil, quand même.
De mon point de vue.
Là, tu t'équites un petit peu.
Attends de voir qu'ils envoient, quand même.
Ouais, c'est ça.
Encore une fois, on est dans l'expectative, on se pose la question, si vraiment on a ça, je pense qu'on peut être les favoris à domicile, à la maison, parce que...
Et pas à 150 km de Paris, hein, à
non,
Paris même.
Non, pas à 150 km de Paris.
Non, on sera à Lille,
on sait, à 150 km de Paris.
On sait pas trop où on sera pour l'instant,
à 300 km, ouais.
Il faudra
envoyer les Avengers pour nous jouer, hein, si on a ça.
Mais Fred l'a très bien dit, en fait, aujourd'hui, on se pose la question du poste de Victor Wembanyama. Vincent Collet l'a utilisé en poste 5 face à la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine. Fred l'imagine potentiellement 3 dans un de ses rêves les plus fous. Moi, je le vois plus dans un poste 4. Offensivement, on sait pas quel poste il peut jouer. Et défensivement, est-ce qu'on va le faire défendre face au poste 5 adverse? parce que physiquement, il a encore besoin de s'étoffer. Est-ce qu'au contraire, on va le mettre un petit peu plus au large, mais il a encore quelques soucis de mobilité? Je me pose cette question offensivement et défensivement. Je ne sais pas où placer Victor Wembanyama.
Mobilité, je ne sais pas si c'est le terme, un déplacement latéraux, mais encore oui, une fois, pour un joueur de ce gabarit,
après,
c'est difficile.
Après, quand il est battu sur l'un contre un, il est tellement grand que les meneurs, les petits, il est derrière, il est là, il va contrer par derrière. C'est affreux de jouer Victor Wembanyama. Tu ne peux pas shooter parce qu'il a une telle envergure que même s'il a 2 mètres de toi, il va déployer ses ailes et il va toucher le ballon. C'est affreux en fait.
Et même si tu l'as passé, t'es pas serein, oui, parce qu'encore une fois, il peut revenir à n'importe quel moment.
Exactement.
Avec ses longs
bras. Après, la vraie interrogation, on l'aura sur les postes extérieurs de cette équipe de France et notamment les meneurs de jeu. Puisque Jean-Pierre Sutat a fait une croix sur Hurtel, mais Boris a dit calme-toi, Jean-Pierre.
Mais la Fédé maintient derrière.
Calme-toi, Jean-Pierre, quand même, on sait jamais ce qui peut se passer en 2024.
Oui, la fédération contactée par RMC Sport se range derrière les propos de Jean-Pierre Sutat, son président, ce qui est normal. Donc il y a.
Ben, je vois mal la fédération dire non, mais ce qu'a dit le boss, on s'en fout, nous on va faire ce qu'on veut.
Mais bon, Boris Dio est un salarié aussi de la fédération.
Mais t'es pas à l'abri qu'en mai 2023, Thomas Hurtel ne soit plus lié avec le Zénith Saint-Pétersbourg et soit de nouveau.
Parce que Thomas Hurtel veut revenir aussi, voilà, peut-être bien.
On va lui poser la question.
Juste parce que pour clore ce débat, on s'interrogeait là en 2024 sur attention ce que les Américains peuvent envoyer. Il y a quand même pas beaucoup de pivots américains dans les meilleurs rebondeurs de la ligue. Hein. Ils sont tous européens. Faut voir aussi.
Ah, c'est la vraie carence du basket américain, même si Bam Adebayo est un fantastique joueur, mais c'est un pivot sous-dimensionné. Il fait 2m06.
Jared Allen qui peut.
Carter Junior et DeAndre Ayton dans les meilleurs.
Evan Mobley. DeAndre Ayton, il joue avec les États-Unis, il joue avec les Bahamas.
Bahamas, pardon.
Ouais, il est pas américain. T'as Evan Mobley qui peut les panner. Après, c'est la vraie carence et on le voit en NBA. C'est les Européens qui dominent.
Un jour, on pourra s'intéresser aux Canadiens parce qu'il y a un vivier assez incroyable, comme on parle dans cette équipe.
Il faut qu'ils viennent, les joueurs canadiens.
Il faut qu'ils viennent, les joueurs canadiens.
Encore une fois, le fantasme de l'équipe du Canada qui, au complet, serait fantastique, mais qui ne vient jamais.
Allez, messieurs, on continue ce podcast Basket Time consacré à nos prospects français. On va mettre un petit peu de côté Victor Wembanyama parce que.
Oui, il faut arrêter la hype.
Oui, il faut arrêter. Voilà, émission sponsorisée par Laurent Ciara. On va s'intéresser à ces Français qui vont briller dans les années qui arrivent. Laughlin with the steal, 3-on-2, throwing it up.
No. Sidy Sissoko pulling it away. Pour commencer cette saison, j'ai envie de faire ma place dans l'équipe.
C'est raté à 3 points. Mais la balle reste Villeurbanne et Zachary Rizaché. Allez, c'est ce que retiendra le public de l'Astrobal.
France out in transition. Beautiful look inside. Malunga for two more.
Here we go. 5 on the shot clock. Sissoko from deep. Go!
Qui sont les meilleurs Français à suivre pour ces prochaines années? Là, on va se mettre un peu en mode recruteur, en mode scouting, Fred, Stephen et Geoffrey, avec, c'est vrai, beaucoup d'anciens joueurs professionnels qui sont dans cette liste. Et on peut commencer, Stephen, avec un nom très connu du basket français.
Oui, Zachary Rizaché, né en 2005, 17 ans, fils de Stéphane Rizaché, ancien très grand joueur européen, médaillé d'argent avec Fred à Sydney en 2000. Pour moi, Zachary Rizaché, qui a la chance de le commenter souvent, c'est mensuration, corps parfait pour un basketteur de très haut niveau. Il fait 2m6, il a des longs segments, il monte très haut, il a une très bonne mécanique de tir. C'est le gabarit parfait pour un ailier moderne. Déjà, l'année dernière, c'était devenu le plus jeune joueur français à démarrer un match d'Euroleague. Il avait 16 ans contre le Lana de Loup. Il y a 10 jours, premier coup d'éclat, parce qu'il est clairement rentré dans la rotation maintenant de TJ Parker. Il a mis Anthony Polak, le Suisse, sur le banc et TJ Parker maintenant compte clairement sur Zachary Rizaché. Il y a 10 jours face à Vitoria, premier coup d'éclat, 22 minutes, 5 points, 6 rebonds, une passe magnifique au alley-oop pour Yves Ponce. Ça y est, c'est devenu un joueur professionnel de l'effectif de l'Asvel. C'est un garçon qui a une très belle éducation basket, puisque quand vous êtes à la maison avec Stéphane Rizaché, je pense que vous avez plutôt... Ça parle basket, ça regarde des matchs intéressants, pas que de la NBA, même si son avenir pour moi... peut se situer outre-Atlantique, mais il y a une vraie éducation du basket européen. C'est un énorme bosseur qui a compris que pour gagner des minutes, il fallait avant tout défendre, et il défend, il se met des pelées défensives. Un vrai profil pour moi pour le très très haut niveau. Connaissant la cellule familiale, les choix seront bien faits, les choix d'avenir de Zachary Rizaché. Donc on sait que sur le poste 3, ben, la France n'a pas un énorme évier. Quand Nico Batum va arrêter, on a vu que Joanne Bégarin aussi pouvait être une solution d'avenir. Mais Zachary Rizaché, pour moi, c'est éventuellement l'avenir de l'équipe de France sur le poste d'ailier et un vrai beau ailier.
Il y a Ousmane Dieng qu'on peut aussi penser sur le poste d'ailier Ousmane le Dieng. Rookie du Thunder, voilà, pour ça. Mais oui, Zakaria Rizaché, c'est vrai que c'est un degré moindre, évidemment, que Victor Wembanyama. Il est déjà plus jeune d'un an.
C'est qu'il te tue, Victor Wembanyama. Mais, tu peux être un exceptionnel joueur, oui. Il est tellement au-dessus de
mais
tout.
Mais Zakaria Rizaché convainc à chaque sortie sous le maillot de l'ASVEL. Et en plus, en Euroleague, où là, on a évidemment un regard plus aiguisé, parce que c'est quand même le top niveau européen.
Mais en fait, je suis complètement d'accord avec Stephen, c'est que déjà, il est dans une famille qui aime le basket. Stéphane Rizaché, c'est un fou de basket. Je pense qu'il est capable de décortiquer les matchs avec lui à côté en lui expliquant ça, il faut que tu fasses comme ça. Ça doit même être un peu chiant pour pas mentir.
Je suis pas sûr qu'il lui montre beaucoup d'images de James Harden.
C'est un esthète vraiment du basket. Donc, quand t'as un mec qui a autant de talent, qui physiquement est fait pour le basket, et que t'as un père qui t'apprend comment on joue vraiment au basket, bah concrètement, t'es quand même bien lancé.
Et en plus, Geoffrey, il joue l'Euroleague, il joue à l'ASVEL, donc il est déjà confronté à ce qui se fait de mieux en Europe, et puis déjà dans le championnat de France. Il n'est pas là, soit en NCAA ou dans un autre championnat un peu mineur.
Il a réussi à prendre une nouvelle dimension cette année, que ce soit du coup en Betclic Elite ou en Euroleague. Steve a rappelé ses récentes performances individuelles, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il a pas de défaut. Steve, toi qui l'as souvent vu...
Il est encore un peu gentil, il doit s'étoffer, il a 17 ans. Oui, il doit s'étoffer. Il fait 2m06, un grand.
Déjà 120 kilos, ce serait chaud quand même.
Oui, il y a encore beaucoup de travail, mais tous les fondamentaux, ce que je vois d'avant-match, tout est propre. C'est un gamin qui est connecté, il a une belle mécanique de tir. Il va haut, il va rebond offensif, il va haut, il va à la maillotte sur les rebrof.
Et puis il a énormément basket, de qualité
et il comprend le basket. Et ça, c'est important. Le basket européen, surtout. Ouais.
Fred, ton choix.
Moi, j'ai pris Sidi Sissoko, donc 18 ans, meneur arrière de 2 mètres. C'est le fils de Yaka Sissoko, un ancien international sénégalais qui avait fait les JO de Moscou d'ailleurs en 80, et le frère de Boukari qui a signé à Kaisersberg
en Alsace,
exactement, en NM1.
Belle prononciation.
Je suis quand même lorrain du coup, donc c'est pas très difficile. Donc ce joueur a été formé en région parisienne, il est parti très rapidement s'aguerrir dans le basket espagnol à Vitoria, donc il a fait ses classes vraiment dans les équipes de jeunes, et l'année dernière il a joué en Leb Oro, c'est-à-dire qu'en gros c'est la Pro B de l'Espagne, donc un très bon niveau. Donc tout le monde s'est dit, c'est peut-être un peu prématuré pour un joueur de 17 ans, c'est un peu compliqué cette transition. Il a tourné à presque 11 points, 3 rebonds, 2,4 passes en 23 minutes, donc il s'est adapté vraiment assez facilement. Et là, il a eu un choix devant lui, soit tu retournes à Vitoria, parce que son équipe de Leb Oro était l'équipe satellite de Vitoria, donc soit tu restes à Vitoria, où tu joues un peu l'Euroleague, ou en tous les cas, tu fais partie du roster, tu travailles avec tout le monde, soit tu pars en NBA G League Ignite.
Donc c'est l'équipe qu'a
joué Victor Wembanyama, qui possède dans son sein le deuxième de la draft de Victor Wembanyama, Scoot Anderson.
Vespa, on l'appelle.
Et donc exactement. Et donc c'est quand même déjà le premier Européen qui a signé dans cette équipe, qui va jouer en G League. Et sur son premier match de G League, il est à 20 minutes, 9 points, 4 rebonds, 3 passes, 0 balle perdue. Encore une fois, je vous l'ai dit, meneur arrière, donc 0 balle perdue à 18 ans. Alors, il est un peu moins performant sur le deuxième match, mais c'est vraiment un joueur qui est capable de shooter, de percuter, qui a une vraie vision du jeu. Et encore une fois, 18 ans, on n'est pas signé en NBA G League Ignite pour rien.
Qui est aujourd'hui, avec ce qui se fait en Australie, Nouvelle-Zélande, les nouvelles voies un peu de développement des joueurs juste avant la draft.
D'ailleurs, c'est ce qui explique. J'ai choisi ça parce que justement, c'est ce qui se rapproche le plus de la NBA. Déjà, je serai plus vu par les scouts. Ensuite, la ligne à 3 points, c'est la bonne ligne à 3 points, entre guillemets. Et ça me permet de continuer à progresser en travaillant avec des anciens, des vétérans de la NBA, donc des mecs qui connaissent un petit peu comment ça se passe, donc de discuter. Sachant qu'il y a déjà, je crois, 6 joueurs qui ont été draftés depuis qu'elle existe, cette équipe. Donc voilà, dont Dyson Daniels, drafté en 8 par les Pels, par exemple. Donc, et Beauchamp aussi, qui a été drafté par
Marjane Beauchamp, ouais.
par les Bucks. Donc voilà, en gros, la voie royale pourrait être bien draftée haut avec une préparation hyper intéressante.
Le seul truc, enfin, qui me gêne, non, ça me gêne pas parce qu'on ne connaît pas ses intentions, c'est que parce que là on se projette aussi sur éventuellement le prochain vivier pour l'équipe de France, c'est qu'un garçon comme ça qui n'a pas un grand vécu avec la France, est-ce qu'il va avoir l'amour du maillot pour venir jouer en équipe de France ?
Pas grand vécu avec la France, mais grand vécu avec l'Europe, le basket FIBA, parce qu'encore une fois, il a fait ses gammes en Espagne. Donc, s'il a vraiment cette volonté de revenir, il aura cette double culture, entre guillemets, vraiment basket espagnol, donc à fond FIBA, et de l'autre côté, cette culture NBA G League qui peuvent lui permettre aussi de faire des grosses perfs.
Merci pour Sidi Sissoko. Ton choix, on sent que
moi,
l'Espagne n'est pas loin. Hein.
Bah, encore une fois, un joueur qui est capable de partir, je crois qu'il est parti à 13 ans hein, pour faire ses gammes là-bas. Donc c'est vraiment un joueur qui sait ce qu'il veut et un joueur qui fait les gammes en Espagne, il sait jouer au basket.
Geoffrey, ton choix.
Alors moi, je vais vous parler de Maxence Massadilla. Peut-être que ce nom ne vous dit absolument rien. Alors j'ai découvert ce joueur parce que j'ai un collègue arbitre qui m'a dit tu devrais jeter un petit œil.
Déjà il te regarde voilà. mal. T'as vu Stéphane, tu regardes mal.
Les arbitres font du scouting. S'ils avaient un œil de basketteur, ça serait quand même.
À partir du moment où on vient pour arbitrer un match sur un terrain, on peut prendre du plaisir.
On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
Moi, j'ai eu l'occasion d'arbitrer Victor Wembanyama quand il était plus jeune. J'ai eu l'occasion d'arbitrer bon un degré moins Sekou Doumbouya.
Et ben Stephen Brun.
Et ben c'est kiffant. C'est Stephen Brun. Oui, moi j'ai pris plus de plaisir un peu avec Victor parce qu'il m'a pas gueulé dessus. mais voilà, et surtout il dominait tout le monde, enfin comme Steve avant quand je l'avais arbitré. Mais il m'a dit, ce collègue, tu devrais regarder le petit meneur d'Orléans en espoir probé. C'est un championnat qui a été remis au goût du jour là il y a quelques années. C'est pas mal du tout. Et effectivement, je suis allé regarder quelques vidéos. Je suis même allé voir un match. Et je pense que Maxence Massadilla, ce sera l'un des principaux joueurs français amenés à performer en pro dans les prochaines années. Alors il a 19 ans, c'est un meneur de petite taille. Cette année, c'est le deuxième meilleur passeur du championnat espoir en pro B cette saison avec 9 passes de moyenne. On peut rajouter 10 points pour une belle évaluation moyenne de 16. Et son coach Nicolas Guérin, il nous le présente un petit peu plus en détail.
Maxence, c'est un joueur qui est quand même très atypique aujourd'hui dans le championnat de France jeune. C'est un meneur de petite taille qui a pas mal de qualité, encore quelques petits points à améliorer s'il veut accéder au plus haut niveau, à mon sens, à savoir ses attitudes défensives, sa pression défensive sur la balle et stabiliser son tir extérieur. Mais pour le reste, très bonne vision de jeu, très très bon passeur, vraiment très très bon passeur. En revanche, il a une vraie accélération, un vrai changement de rythme qui font de lui un joueur qui peut être très surprenant.
Alors voilà, c'est un petit format qui est très bon sur pick and roll. Nicolas me le disait lors de l'interview, il a un état d'esprit exemplaire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce profil et pour avoir regardé quelques vidéos de lui, ça va très très vite. Vraiment, il arrive à mettre beaucoup de relances d'un point de vue offensif. Alors il a débarqué à Orléans en 2018. Il était auparavant à Fleury-les-Aubrais, l'ancien club d'un certain Sekou Doumbouya. Mais pour son coach, la ressemblance,
c'est pour lui d'ailleurs. Sekou Doumbouya, c'est vraiment la voie qui a été tracée.
C'était ce que j'allais dire. Après, j'espère pour lui qu'il
n'y a pas l'entourage.
Voilà, exactement. mais pour son coach, du coup, la ressemblance, elle est plus à trouver d'un international français qui a joué avec l'équipe de France contre la Lituanie.
C'est une très bonne question que vous me posez là, parce qu'on en a discuté ce matin avec lui. Je peux me faire penser un petit peu à Benjamin Sène à l'époque, en moins explosif et en moins explosif, moins athlétique, mais un petit peu dans la même qualité de passe. Pas vraiment un fort shooter, mais qui a réussi à stabiliser, à développer une compétence derrière. Donc il peut me faire penser un peu à Benjamin, le meneur de Nanterre qu'on avait eu au centre à Nancy à l'époque.
Alors Maxence, il avait été sélectionné il y a quelques années pour participer à un tournoi avec l'équipe de France U16. Depuis, plus rien, mais ses prestations actuelles, et on en parlait tout à l'heure avec Steve, Fred et toi Arnaud, au vu des carences parfois sur le poste de meneur en équipe de France, eh ben, ça peut donner potentiellement des idées à Vincent Conley et son staff pour les années futures.
Ça vous parlait Maxence Massadilla ou c'est une découverte?
Moi je l'ai vu en pré-saison parce que Jean-Marc Cassano, les coachs d'Orléans, l'équipe première, je l'ai vu faire la préparation avec les pros. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux parce que bon, c'était de la préparation, mais quand je regarde ses chiffres, les passes, il a fait une perf à 14 passes d'ess. Alors ça reste un championnat d'espoir probé où le niveau est un petit peu disparate, mais il faut les faire. Ça veut dire qu'autour il y a des mecs qui ont mis des paniers surtout.
Oui c'est ça. Après, ils ont plus qu'à mettre dedans aussi.
Oui oui. Non mais écoute, à suivre Maxence Massidilla.
Découverte pour toi,
Fred. Ouais, découverte un petit peu. C'est vrai que les espoirs de Pro B, je ne suis pas beaucoup, mais heureusement qu'il y a des arbitres qui sont vigilants et qui nous retranscrivent.
Voilà. On vient faire du scouting. Avant, ouais. Là, on bosse.
Donc ça veut dire que ton niveau, c'est arbitre espoir de Pro B, c'est ça?
Non, alors on va pas refaire l'histoire. J'aurais pu, mais maintenant je m'arrête à Régional 1. Voilà.
Et pourquoi pas un spécial basket time, spécial arbitrage?
Bah, ça va aller, mon grand.
Alors je signe. Ça, je signe. Voilà.
Juste avant que je vous donne.
Votre technique, Steve.
Avant que je vous donne mon choix, le Vivier au poste de meneur arrière, est-ce que c'est pour vous un point d'inquiétude, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup arriver des liés d'intérieur, mais pas forcément un successeur d'un certain Nando Docolo.
Moi, c'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude quand tu vois les garçons qui sont aujourd'hui en NBA. On a vu que la greffe Théo Malédon, c'était à l'Eurobasket, elle n'avait pas été terrible, notamment sur la cohésion et l'osmose au niveau du groupe. Kylian Hayes, il est porté disparu avec les équipes de France parce que je crois qu'il a refusé l'année dernière d'être partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûr.
Sa relation avec l'équipe de France a toujours été très tendue.
Je crois que chez les jeunes, il avait été suspendu une fois.
Mais il était obligé d'aller jouer à
Roule, justement.
Exactement. Donc il va y avoir une vraie carence. Même si Sylvain Francisco a montré des bonnes choses et que dans les paroles de Vincent Collet en disant que certains garçons avaient peut-être gagné leur chance pour la prépa et marqué les points pour la Coupe du Monde. On peut penser à Sylvain Francisco qui a énormément gagné en maturité.
Thomas, ouais, incroyable.
C'est la première fois que je vois Vincent Collet faire ouh, applaudir. Ouais. Tu as vu l'image?
Oui,
ouais, quand même.
C'est à faux. Sylvain Francisco chope un ballon et va mettre un vrai marteau. Voilà.
Interception au milieu de terrain.
Interception. Ouais. Et Vincent Collet qui subjugué.
Ah ouais, il rigole un peu.
Qui est plutôt stoïque d'habitude. Sur un pied de Victor Wembanyama, on l'a pas vu faire une moue. Alors c'est la télé l'a pas montré.
Le voit tous les jours entraînement. Ouais, ça change tout.
Mais alors là,
Sylvain Francisco, oui. Après, Sylvain Francisco est un meneur scoreur. C'est un meneur qui met des points. On est très loin de la création que peut avoir un garçon comme Thomas Hurtel. Mais c'est vrai que sur le poste de meneur de jeu, il va falloir se poser quelques petites questions pour l'après 2024.
Mais tu vois pas de successeur de nom, toi, Fred?
Mais j'ai l'impression. Alors, je suis désolé, mais je vais un peu attaquer la formation, mais j'ai pas l'impression qu'on forme vraiment des joueurs avec de la vision du jeu.
Bon, on a vrai, c'est une académie de meneur de jeu, non?
Oui, mais je suis d'accord. Sauf que pour l'instant, ce qu'on est en train de voir, et ben, soit ils sont très physiques, très athlétiques et ils sont dominants en 1 contre 1, soit ils sont capables d'organiser. Mais c'est vrai qu'un mélange des deux, un petit peu, encore une fois, Nando De Colo, c'est pas le plus athlétique, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de créer. Thomas Hurtel, c'est quelqu'un qui est capable de créer, qui est rapide sur son premier pas, au moins.
Andrew Albici, des qualités de défensives hors normes.
Andrew Albici, moi je le mets pas quand même dans cette catégorie de créateur.
Ah non, mais il a su faire sa place.
Il a su faire sa place.
Il a développé une forme d'intelligence de basket, là, en l'occurrence en défense.
Moi je trouve que ça manque un petit peu.
Après, on parlait de...
On naturalisera Lorenzo Brown si on a marre de l'Espagne. Voilà, il a un passeport
français. On parlait de QI basket. Il y a notamment l'école des meneurs à Bourg-en-Bresse avec Hugo Benitez, où il y a un petit qui joue à Fos-sur-Mer là, qui est sorti d'INSEP.
Alors on parle d'Hugo Benitez, mais Hugo Benitez, tu le vois en équipe de France?
Vu pour l'instant des peurs qu'on a pour les prochaines années, oui.
Ben, je suis désolé. Alors, j'ai rien contre Hugo Benitez, mais ça me paraît un peu juste par rapport à tout ce qu'on a autour, quoi.
Oui. Pour l'instant, ça dépend si Thomas revient, ça dépend si Nando il va pas continuer à jouer.
Sidi Sissoko, vous inquiétez pas, il y a Sidi Sissoko qui
arrive. J'aime bien Hugo Benitez, j'adore. Un meneur un peu formé à l'espagnol. Sauf qu'il a pas mis un pied encore en équipe de France.
Oui, c'est pour ça. Mais il est encore tout jeune. Là, on se projette dans les années futures.
Oui.
C'est donc, de belles projections.
Mais c'est la vraie inquiétude, hein, quand même.
Si on se projette, moi j'ai mon fils aussi qui va jouer meneur, qui a 19 mois.
T'es sûr qu'il sera meneur?
Peut-être qu'on peut se projeter aussi, hein, si on veut vraiment se projeter très loin.
Bon, avant de conclure ces spéciales prospects, je voulais avoir un choix et parler quand même d'une fille. C'est Dominique Malonga, 17 ans. Elle est donc de 2005. Elle mesure 1m97 et elle dunk de formidables qualités athlétiques. Et rien que de penser à une raquette Iliana Rupert, Dominique Malonga pour les années qui arrivent en équipe de France, je vois des médailles d'or tomber. J'oublie pas également Alexia Chartereau qui est jeune. Voilà cette raquette pour l'équipe de France. Elle a commencé au Paris Basket 18, l'occasion de saluer le travail que fait ce club, notamment pour les filles, ce club Olivier féminin du nord au 18e arrondissement de Paris. Beaucoup de très bon boulot d'un point de vue sportif ou social. Alors Dominique Malonga est aujourd'hui à l'ASVEL et elle joue déjà avec l'équipe 1, 19 minutes de moyenne en Ligue féminine, 11 d'évaluation. Elle a même fait une pointe à 17 points si bon contre Charleville. Bref, là aussi, le basket féminin français tient son phénomène.
Bonne joueuse, je l'ai vu jouer contre la Roche-Vendée dimanche. Je pense que dans la rotation, elle va pas tarder à passer devant Elena Siak, Dominique Malonga. Sur les pick and dive, alors elle a de très bonnes mains, elle attrape les passes. Et quand vous jouez avec Marine Joannès, il faut avoir les mains prêtes. Les mains prêtes, elle les a. Les traversées de terrain, elle y est.
Mobilité,
elle est présente.
Ouais.
Elle a une bonne qualité de main pour finir sous le cercle.
Dominique, les vraies qualités athlétiques, ça on l'a vu aussi.
Dominique Malonga, t'as raison d'en parler, ça va être très fort. Très fort, Dominique Malonga.
Oui, Victor Wembanyama en fille. Un peu dans l'esprit, dans la domination. Alors, je sais que
attention, le Serra va gueuler aussi.
Mais il y a une hype sur Malonga.
La hype me gonfle.
Non, vraiment, vraie belle joueuse.
Bon, voilà pour Dominique Malonga et vos choix, messieurs. On est un petit peu en retard, on va essayer d'aller vite. Quel joueur français n'a jamais joué en NBA et qui aurait pu briller? C'est notre partie historique.
Voilà une drôle de gâchette, Hervé Dubuisson, qui va allègrement sur sa quarantaine et qui est encore présent dans les meilleurs français. C'est super ce panier, cette élégance, cette efficacité d'Hervé Dubuisson. C'est lui qui a marqué le plus grand nombre de points dans le championnat de France, Hervé Dubuisson. Il est génial. Cet homme-là est génial.
Quelqu'un a pris Hervé Dubuisson, visiblement. Fred, quel est ton choix pour ce joueur français qui n'a jamais joué en NBA, mais qui aurait pu devenir, non pas une star, mais un joueur important?
Eh bien, ce n'est pas Hervé Dubuisson. C'est Moustapha Sonko, dit la pioche. Mon ami Mousse qui m'appelle l'appel, du coup. Alors, je sais pas si vraiment c'était un compliment de m'appeler l'appel, mais bon, peu importe.
Pourquoi? Parce que t'en as roulé.
Je sais pas. C'était Moustapha, quoi, complètement fou. Non, mais concrètement, quand on voit ce qui se passe en NBA actuellement avec des combo guards très physiques, très athlétiques, très toniques, On a l'impression qu'il était en avance sur son temps, Moustapha Sonko. C'était quelqu'un qui était dur physiquement, très très dur. Je n'ai jamais vu sur un switch défensif un pivot l'enfoncer. Je ne l'ai jamais vu. Ensuite, défensivement, il pouvait prendre n'importe qui. Ensuite, offensivement, un shoot à 3 points. Alors, pas le plus fiable du monde, mais capable de shooter de très loin. Et après, sur les percussions, une force physique, un animal de la nature, un joueur incroyable, en plus, capable de partager avec ses partenaires, vraiment, dans l'échange, dans le jeu, dans la combativité collective aussi. Un joueur vraiment fantastique, avec qui j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois. Et je vous dis, vraiment, un joueur quasiment impossible à arrêter. Quand il voulait, son premier pas était trop rapide pour n'importe qui.
Un de ces joueurs qui est arrivé 10-15 ans trop tôt, Stephen
Mousse, clairement. Ouais, clairement. Mais après, ça, si tu décides c'est pas, ça, hein. Tu décides pas, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand on voit faire la raison de dire, quand tu vois tous les arrières ultra athlétiques qui finissent au cercle, qui dunk, Moussonko, il y a un peu de Russell Westbrook, hein,
oui.
Sur les qualités athlétiques.
Sauf avec un QI.
Avec un QI basket. Après, il a été fantastique. Il a fait une carrière fantastique en Espagne, hein, Real Madrid, ouais. Malaga. Il est resté de nombreuses années. Quand vous restez beaucoup d'années dans ces clubs-là, c'est que vous êtes déjà un bon joueur de basket et deux, un monsieur.
Surtout que quand il est venu à Malaga, c'est Bozidar Maković qui l'a fait venir. Et quand Maković est allé au Real, le premier joueur qu'il a voulu, c'est Moustapha Sonko.
Ça veut dire que Moussonko qui a chapeauté aussi Mike Djellabal lorsqu'il est arrivé au Real Madrid. Non, Moussonko, joueur fantastique, je vous invite. Il y a encore des highlights qui traînent sur YouTube. Meneur de jeu, il a mis des énormes tomards. Mousse, c'était abusé.
Ouais, qualité athlétique incroyable.
À l'époque de Sceaux, là, ça envoyait des costocos. C'était showtime, baby.
Tu parles de joueurs qui ont perduré dans des grands clubs en Europe. Ça fait partie. C'est ton choix aussi.
Ouais, moi, c'est Alain Digbeu. Né en 1975, formé à l'ASVEL. Lui, le natif de Mâcon. C'est un garçon qui faisait 1m96. Pour moi, le vrai Air France, c'est lui. C'est pas Mike Petrus, le premier. L'original Air France, c'est bien Alain Digbeu, c'est un arrière ailier ultra athlétique, élégant dans le jeu, magnifique à avoir joué pendant 6 saisons avec l'ASVEL. Bah, il sera le joueur le plus spectaculaire du championnat, vainqueur du concours de dunk en 96. Il a régalé des alley-oops avec Delaine Herod qui l'envoyait
après il est tombé dans la bonne équipe aussi, hein, quand t'as Delaine Herod et Digbeu dans la même équipe, hein, ça va envoyer des alley-oops.
C'était incroyable. Et Alain, c'était un énorme défenseur aussi. On l'a vu combien de fois mettre des contres en deuxième rideau, baisser la tête pour pas se cogner la tête. Il a été drafté par les Hawks en 97, 50e choix, donc deuxième tour, pas de contrat garanti. Et la porte, elle s'ouvrira jamais à lui en tant que joueur, s'ouvrira un petit peu en tant que scout, puisque d'ailleurs il a été scout pour les Hawks d'Atlanta. Mais voilà, Alain, je pense que là aussi, comme Mousse, un petit peu trop tôt sur cette NBA qui n'avait pas encore les portes ouvertes aux Européens. Il avait comme idole Michael Jordan, ça se voyait un petit peu dans son jeu. Il a beaucoup imité Michael Jordan. Bah, là aussi, Alain, c'est une carrière exceptionnelle. Il a joué pour les deux plus grands clubs en Espagne, le Real et le Barça. Et bah, si Alain Digbeu était joueur actuellement, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il serait aujourd'hui joueur NBA.
Juste pour revenir sur son intelligence, le mec en plus, c'est que ce gars-là, il est en Turquie, et en Turquie, il commente les matchs en turc.
Ouais.
Alors oui, sa compagne est turque, mais quand même, le turc, c'est pas la langue la plus facile à apprendre quand même pour nous. Donc le mec est capable de parler anglais, espagnol, turc, ouais, et peut-être autre
mec,
chose.
Super mec,
super intelligent. Donc oui, il aurait pu faire une énorme carrière.
Tellement un fiston qui est encore jeune, Tom Digbeu.
Tu joues à Megalex, je crois.
Oui, c'est ça.
Mais qui a fait un peu de G-League aussi, je vois rapidement là sur
Lituanie aussi.
2001, qui reste encore
pour la guerre, Tom Digbeu.
Qui reste encore un jeune joueur. Geoffrey, ton choix.
On parlait de profil très athlétique. Moi, le mien, on va plutôt rester au sol. Et je vais me tourner vers ma gauche parce qu'on se posait la question de savoir quel joueur français aurait pu performer en NBA. Pour moi, ça a été assez évident comme réponse, c'est Fred. C'est vrai qu'avec son physique, sa taille, ses qualités près du cercle, je pense qu'il aurait fait un carton en NBA. Alors, parce qu'à l'époque de sa draft, il a été drafté en 15e position, je le rappelle, en 99. Fred, c'est pas seulement un grand basketteur physique, intense, un joli baobab, comme on dit. C'est un mec capable de tourner entre 10 et 15 points de moyenne et de dominer la proie. Alors, si l'histoire avait voulu que Fred joue en NBA avec les Knicks, il aurait débarqué dans une ligue dominée à l'époque par David Robinson, Karl Malone, ou encore The Morning à l'intérieur. Et ben pour moi, Fred, il n'aurait pas démérité, sans oublier ton grand ami Kevin Garnett. En 99-2000, il est élu, je crois, dans la deuxième meilleure équipe NBA de l'année. Pour moi, si les Knicks avaient voulu faire de lui le futur remplaçant de Pat Ewing, je pense qu'il pourra en parler bien mieux que moi, c'est pas pour rien. Ils étaient venus le voir jouer toute la saison avec des scouts, et surtout, ils lui avaient proposé un contrat garanti. C'est vrai que la vie de Fred n'a pas toujours été simple. Il y a eu plein de circonstances en sa défaveur. Lors de sa draft, il y a un agent qui termine en prison, il y en a un autre qui perd sa femme, Fred.
Là, t'as lu son livre.
Fred se blesse. Alors, je vous conseille aux éditions Amphora, jusque là ça va, c'est un très joli livre. Voilà, mais c'est vrai que Fred, au-delà d'être un consultant, un commentateur, c'est un ami, et je lui ai déjà dit, je pense qu'il aurait eu toute sa place et qu'il aurait pu réussir à l'époque une grande carrière en NBA. Dans la NBA d'aujourd'hui, peut-être un peu plus de mal, mais à l'époque, quand on se remet en 99-2000, je pense qu'avec les gros bavards à côté de lui, je pense qu'il aurait pu clairement, non pas dominer, mais être bien.
Sans... on est obligé de te poser la question, même si tu as déjà répondu plein de fois, et sans égo ni pensée. Tu penses que effectivement tu as manqué quelque chose, tu aurais pu, les circonstances, tu n'as pas été aidé?
Non, concrètement, les circonstances ont fait que c'était compliqué, parce qu'au départ, c'est vrai que quand il me choisit 115e position, c'est assez surprenant pour tout le monde qu'un Français que personne n'a vu, mis à part eux, soit choisi aussi haut. Mais les mecs me scoutaient depuis presque 3 ans, me regardaient tout le temps, venaient tout le temps à Limoges. Et donc je pense qu'il savait à peu près ce que ça pouvait donner. Après, j'ai eu une hernie discale qui m'a beaucoup freiné et qui m'a empêché de jouer après comme je jouais jusque-là. Je ne sais pas si j'aurais performé ou pas, mais c'est vrai que je n'ai pas eu toutes mes chances pour le faire, en tous les cas.
Est-ce que le basket NBA t'a attiré?
Moi, j'étais un passionné de NBA. J'avais des posters de NBA dans ma chambre. Mes joueurs préférés, évidemment, étaient des joueurs NBA. Moi, j'ai eu un problème avec la NBA entre 2000 et 2010, parce que je ne me reconnaissais plus, parce que voilà, ça m'intéressait de moins en moins. J'avais été un peu dégoûté, alors peut-être par cette situation-là, et aussi parce que le jeu me plaisait de moins en moins et que j'étais tombé un peu amoureux de l'Euroleague. Mais moi, j'ai toujours été un passionné de NBA dans les années 90, hein, par contre.
Très bien.
Bon, Hervé Dubuisson, c'est moi qui l'ai choisi, finalement, un des meilleurs joueurs du basket français. Formidable attaquant, ailier d'1m95, un shooter incroyable. Summer League avec les Nets en 1984. D'ailleurs, c'est aucun Européen qui n'avait pas accompli de cursus outre-Atlantique, des facs, ils n'avaient jamais eu leur chance en NBA. Ça ne va pas le faire pour Hervé Dubuisson. On rappelle quand même, meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France avec 3916 points. Joueur le plus sélectionné de l'histoire, 254 sélections. Ce match, c'est 51 points marqués en qualif de Coupe du Monde face à la Grèce de Nick Galis. Il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs sur un match des Bleus, où il en a 6, un de ses records. On trouve Tony Parker 2 fois notamment. Bref, Dubuisson, c'était des shoots longue distance, quasi à la distance NBA, parce qu'à l'époque la ligne était beaucoup plus proche, 6m25, mais il n'hésitait pas quand même à être un bon mètre derrière. Un joueur incroyable qui a marqué plusieurs générations de ce basket français des années 80,
dont Indra, qui l'a marqué bien.
Oui, malgré le fait qu'il n'a jamais fait de championnat de France, de finale de championnat de France. Bon. Hervé Dubuisson, lors de ses différents passages au Mans, Antibes, Racing Club de Paris, ou encore Montpellier sur la fin.
Et puis Hervé Dubuisson, énorme qualité athlétique.
Ça mettait un gros dunker.
Énorme dunk, c'était un scoreur certes, mais à l'époque, il mettait la tête au cercle. Et puis, au-delà du basketteur, personnage sur qui tu pouvais faire des campagnes de pub parce qu'il a une belle gueule.
Attachant.
Hervé Dubuisson, ouais, c'était un fantastique, un poignet. Bon, il assis au milieu de terrain,
rappelle. Combien de fois on l'a vu assis au milieu de terrain.
Il mettait dedans, mais non, un vrai fantastique joueur de basket, Hervé.
Ça aurait pu aussi vous partager.
Très bon choix, Hervé Dub.
Merci messieurs, voilà pour cette partie historique qui nous rappelle des souvenirs, un petit peu le basket de notre enfance pour certains, le basket un peu plus d'adolescence pour tout le monde. Allez, le quiz, je vous l'ai promis, 3 sur 5 la difficulté.
Kawhi Leonard.
Ah, Carmelo Anthony, au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun, vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Ce quiz, j'attends presque le quiz pour le jingle.
C'est vrai.
Vous savez, ah oui, parce qu'à chaque fois, je me régale. Allez, je vais vous proposer un extrait sonore.
Propose-nous.
On commence donc par cette personne qui parle, quoi, et vous devez me dire qui a parlé.
For me, especially now playing on a four, I mean,
Victor Wembanyama.
Victor Wembanyama. Interrogé en plein match des Lakers par ESPN avec Jeff Van Gundy, Mark Jackson accosté. Un point.
Gaffe qu'il a un si bon anglais.
Ah ouais, mec, on peut le remettre, tiens, pour l'anglais.
Il est hallucinant. Anglais.
Il est parfait, hein, l'anglais de Victor Wembanyama. Tiens, on peut réécouter. Moi, on n'a pas l'impression.
That was my first time playing on a 48-minute game. And what I noticed is I need to get
interrogé sur le fait que c'était la première fois qu'il jouait dans un match de 48 minutes, parce que c'est vrai qu'on regarde son temps de jeu. En équipe de France assez modérée, on a vu 23 minutes et 22 minutes à peu près pour Victor Wembanyama. Puisqu'on en parle, vous savez que c'est une famille de basketteurs, les Wembanyama. Il a des frères et sœurs. Sa sœur, Eve.
Ouais. À Monaco.
Elle joue à Monaco.
Bonne réponse.
Coché par Régis Racine, si tu veux savoir. Voilà.
Et bonne Régis lui dit Eve, lève-toi quand il demande le changement.
Même si elle a joué le premier match, 10 points d'Irbon, je crois, et elle a peut-être un petit problème de blessure, hein, puisqu'on ne l'a pas revu sur des feuilles de match pour Eve Wembanyama. Et puis il y a le petit frère Oscar qui joue à Nanterre, toujours en équipe.
Non, il joue à l'Asvel.
Nanterre et maintenant à l'Asvel.
Il a fait le chemin inverse de son frère, en fait.
Ouais, ancien handballeur, hein. Très bon, justement, mais qui a choisi le basket.
Messieurs, ça va être un quiz en chair. 23 juillet 2000, Zadar. Croatie. C'est la finale du championnat d'Europe des moins de 18 ans. Combien de joueurs français pouvez-vous me citer qui ont participé à cette finale assez mythique ? Et j'accepte les deux DNP, Did Not Play, les deux joueurs présents sur la feuille mais qui ne sont pas rentrés.
Qui commence ?
Qui commence ? Bah Fred, on...
Tu fais avec ton téléphone, toi, non ?
Bah, il note les noms.
Pose-le.
Geoffrey Charpie, c'est ça. Est-ce que Fred
note ? Est-ce que Fred note ? Non, est-ce que je note ? Comment ? Non, tu poses au téléphone.
Okay, ou alors tu notes, et je te prête mon stylo.
Non, mais très bien. Très
alors, Fred,
très
combien ?
On fera un podcast.
Trois joueurs pour Fred. Voilà. Geoffrey.
Trois.
Arrive, donc tu
peux pas, tu veux pas faire comme moi, t'es obligé de faire plus. Alors, tu connais, le mec, c'est le producteur, il connaît pas les règles.
J'ai mis un coup de pression ici.
Quatre.
Neuf.
Neuf. Ouh là là. Je rappelle que c'est pour. Je donne 3 points. Hein,
oui.
Parce que c'est dur.
Je vais les prendre.
9 sur 12, là, Fred.
Non, il est confiant. Hein.
Bravo.
Ouais.
Allez, c'est parti. Oui, j'imagine, Geoffrey, je t'interroge pas, mais 9.
Non.
Allez.
Tony Parker.
Tony Parker, c'est bon.
Boris Diaw,
c'est bon, évidemment.
Yacouba Diawara,
c'est bon.
Guillaume Yongo,
c'est bon.
Vincent Mouillard,
c'est bon.
Robert Michalski,
c'est bon.
David Frappot,
c'est bon.
Tu connais pas les deux, là.
Ronny Turiaf.
Ronny Turiaf, évidemment.
Je fais combien, là ?
Il t'en manque 2. Tu es à 8.
Non, il y en a 5, là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Guillaume Zazak.
C'est bon. Ah, il va le faire parce que c'est pas difficile ce qui lui reste, hein.
Mike Pietrus,
évidemment, c'est bon. Il te manquait, je pense que tu pouvais trouver le 11e.
C'est possible.
Non, bah l'aventure des frères Parker, enfin l'aventure de Tony Parker.
Gaëtan Müller,
évidemment. Alors par contre, le dernier, les initiales, NN.
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 Deux N donc.
Deux N, ouais.
Nicolas.
Non.
Nathan.
Non. Noël.
Noël Nijan.
Bon voilà, 3 points brillamment remportés par Stephen. Là, je pense que.
Oui, on lui donne.
C'est bien.
Tu peux même lui donner 4 presque.
Ouais. Bravo, Stephen. Merci.
Si j'avais donné les 2, j'aurais donné 4 points.
Ça me ferait noter.
Stephen, 4 points. Geoffrey, 1. Fred, 0. Je vais vous donner la carrière de cet ancien prospect français drafté en NBA. C'est pour 2 points. Ça va aller vite. Centre fédéral.
Ok, super.
Jérôme Moïseau.
Non. Rohan.
Gershon Yabusele.
Milwaukee Bucks.
Damien Inglis.
Eh oui.
Do you speak English?
Absolument. Damien Inglis, excellent sur ses fenêtres.
Très
on
bon
l'a revu en équipe de France.
Joueur de Grande Canaria avec.
Il a beaucoup progressé mentalement dans son approche des matchs. Hein, beaucoup moins stressé. Il attend que le jeu vienne à lui. Vraiment,
très bon sur les lectures de jeu. Attaque de zone. Il a détruit la zone de la Bosnie. Hein.
Avec une utilisation de tir intermédiaire en plus, parce qu'on ne voit plus trop ça.
Reste 4 un petit peu sous-dimensionné en taille, mais bien gaillard, costaud, ouais. Bien costaud.
C'est pas
perdu,
Strasbourg, Limoges.
Il a perdu 10 kilos par rapport à l'année dernière.
Strasbourg, Limoges, Re-Strasbourg, Monaco, Bilbao et Grande Canaria aujourd'hui pour Damien Inglis. Voilà. Sur ses prospects français. Drafté ou pas drafté, je vais vous donner chacun votre tour. C'est pour 1 point par réponse. Je vais vous donner le nom d'un joueur français et vous allez me dire s'il a été drafté ou pas drafté. On va commencer par Geoffrey.
Geoffrey Levan ?
Non. Vincent Poirier, Geoffrey Charpie. Drafté ou
il
pas
a
drafté,
été drafté.
Non, pas drafté.
Il a été drafté.
Il part du Vitoria, meilleur rebondeur.
Stephen Brun.
Oui.
Yacouba Diawara.
Moi, je suis pas drafté, moi. Yacouba Diawara ?
Drafté ou pas drafté ?
Sorti de Pepperdine. Yacouba Diawara, il est drafté.
Non, pas drafté.
Il n'est pas drafté, Yacouba Diawara.
Il n'est pas drafté, Yacouba Diawara.
Très bien.
Non. Yacouba Diawara, je vérifie quand même tellement t'as l'air surpris, mais j'ai quand même bien bossé le quiz.
Je pensais qu'à sortie de Pepperdine, il était drafté.
Non drafté, Yacouba Diawara en 2005.
J'ai quand même vérifié quand même aussi.
Fred, Geoffrey Lauvergne.
Drafté
ou pas drafté ?
Drafté.
Drafté en 55e position. Monsieur Geoffrey Charpie, Axel Toupane. Drafté ou pas drafté ?
Pas drafté.
Bravo. Pas drafté, c'est bon. Stephen Brun. William Howard, drafté ou pas drafté ?
Pas drafté.
Drafté.
C'est sûr.
Il est drafté, William Howard, je crois.
Drafté ou pas drafté ? William Howard.
Ouais, il est pas drafté.
Pas drafté, c'est bon. Et enfin, pour terminer, Nando Docolo, drafté ou pas drafté ?
Oui.
Oui, c'est bon. Quelle place?
53e. Ouais, ah, c'est pas mal.
47, pas si mal. 2014, deuxième tour pour Nando De Colo. Ce qui fait Stephen, qui est à 3, 4, 5, 6, 7.
Stephen qui a gagné, du coup.
Fred 2 et Geoffrey 2. Et il reste la charade pour terminer, quand même. Ah. Il reste une petite charade pour terminer, mais c'est plié. C'est pour le plaisir du
pour
jeu.
Pour le plaisir de la charade, surtout.
Mon premier est un arbre fruitier.
Bananier, Vincent.
Mon deuxième est vénéré et canonisé. Mon troisième est un évangile. Mon premier est un arbre fruitier. Mon deuxième est vénéré et canonisé. Mon troisième est un évangile. Le tout est le premier joueur français non naturalisé à avoir été drafté. Mon premier
Jean-Claude
est un...
Jean-Claude
Lefèvre.
Jean-Claude Lefèvre.
Le premier français.
Mon premier est un...
Jean-Claude Bonato. Mais c'est pas un arbre fruitier.
Non, c'est Jean-Claude Lefèvre, le premier français drafté. Et le deuxième, c'est Tariq Abdelouad.
Olivier Saint-Jean.
Olivier Saint-Jean.
Ouais. Bah, c'est Olivier Saint-Jean la bonne réponse.
C'est le deuxième. Eh ouais, c'est le deuxième. Le premier à avoir foulé les parquets NBA, Tariq Abdelouad.
C'est vrai, oui, je me suis planté.
Il est énervé, j'ai l'impression qu'il est énervé. Là.
Il est énervé. C'était Olivier Saint-Jean la bonne réponse, qui ensuite est devenu Tariq Abdelouad.
L'évangile selon Saint-Jean.
Bah oui.
C'est ça.
Olivier l'Olivier, saint et canonisé, et Jean l'évangile.
L'Olivier, où sont
victoire de Stephen Brun, qui, malgré cette dernière question bancale, je le reconnais, mais à coup le pas, voilà, je fais signe au coach. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Basket Time. On revient très vite, évidemment, toutes les semaines en podcast. Ciao, ciao.
Bye.
RMC Basket Time.